Vous êtes sur RTL.
Joué battu en quart de finale, il avait la tête des mauvais jours, il ne décrochera donc pas un troisième titre olympique sur les tatamis, pas de médaille non plus en BMX alors que les Français sont les meilleurs de la planète, compteur des médailles, bloqué donc à 11 en cette septième journée de compétition. On va faire le point tout à l'heure avec la ministre des Sports qui sera notre invitée à 7h45, l'occasion de demander à Roxana Maracine et à nous comment nous pourrons faire du sport, nous, à la rentrée avec ce virus, avec ce pass sanitaire obligatoire pour les piscines, les salles de sport et les tennis. Et quid de nos enfants et quid du sport amateur? C'est le gros dossier sur la table en ce 30 juillet. Bienvenue à vous tous, vous êtes chez vous, à la maison, c'est RTL, il est 7h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe en ce vendredi. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et cette fin de nuit cauchemardesque pour les Bleus à Tokyo, Teddy Riner battu, terrible désillusion pour le judoka français.
Il tentait de remporter un troisième titre olympique, ce sera au mieux la médaille de bronze. Le choc hier soir en plein Paris, un mort et 6 blessés, une voiture a percuté une terrasse. Mort après avoir été vacciné, les spécialistes privilégient la piste d'une intoxication alimentaire, mais le père du jeune homme réclame des réponses. Des poulets si gros qu'ils ne tiennent plus debout, la dernière vidéo choc de L214 sur l'élevage intensif. Et puis des pompiers à bicyclette cet été sur l'île aux Moines.
RTL à Tokyo.
Il voulait donc entrer un peu plus dans l'histoire de son sport. Teddy Riner s'incline finalement en quart de finale.
Pas de triplé olympique pour le champion du judo français battu par le numéro 1 mondial Isabelle Langer.
Ah oui, le coup de tonnerre ici au Nippon Budokan, ce temple du judo au Japon, terrible désillusion pour Riner. Le colosse est en effet fait surprendre en quart de finale par le russe Bachaïev. Une victoire sur Wazahari au golden score, c'est-à-dire dans le temps supplémentaire. Cruel échec pour le français, blessé il y a 5 mois et qui a effectué une course contre la montre pour se rétablir et être prêt pour ses jeux. Mais il lui faut maintenant quand même se remobiliser car il y a encore une chance d'aller chercher le bronze. Chez les femmes, Romane Dico est en demi-finale, chez les plus de 78 kilos. Et vu ce qu'elle a produit lors de ses deux premiers combats remportés sur Ippon, elle n'est pas là pour faire de la figuration.
Isabelle Langer à Tokyo pour RTL. Désillusion aussi pour les épéistes français en équipe. Champions en titre, ils ont été battus en quart de finale. Aucune médaille pour le BMX, malgré 3 cyclistes français en finale. À suivre le journal des Jeux avec le point sur tous les résultats. Ce sera dans une dizaine de minutes.
7h02 dans l'actualité de la nuit. Également, une voiture a percuté une terrasse en plein Paris.
Les dégâts sont impressionnants et le bilan est dramatique. 1 mort, 6 blessés, dont 1 grave. Le conducteur a pris la fuite, Vincent Serrano.
Oui, ce chauffard qui conduit beaucoup trop vite dans cette petite rue du 17e arrondissement de Paris, lorsqu'aux alentours de 22h30, un refus de priorité l'aurait obligé à tourner brusquement le volant vers la droite. Il fait d'abord un écart, puis plusieurs tonneaux avant de percuter cette terrasse où est installée une dizaine de personnes. Le choc est d'une extrême violence. Les plots qui délimitent cette terrasse, il y en a 7, et bien ces plots sont entièrement défoncés, pliés par le choc, les chaises projetées au sol. Alors, une femme qui se trouvait justement sur cette terrasse décède quasiment sur le coup. 2 autres personnes sont blessées, dont le passager du véhicule qui reste coincé à l'intérieur. Il sera rapidement transporté à l'hôpital, mais le chauffard prend la fuite à pied, laissant derrière lui ce véhicule presque éventré au milieu de la chaussée. Le parquet de Paris a d'ores et déjà ouvert une enquête pour les faits d'homicide involontaire et de blessure involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Le récit de Vincent Serrano pour RTL.
Le virus à présent des patients de plus en plus jeunes et sans facteur de risque dans les services de réanimation.
Alors que la 4e vague de l'épidémie s'intensifie, on est repassé hier au-dessus des 1000 patients Covid dans les services de soins intensifs. Djilali Hanan, chef de service en réanimation à l'hôpital Poincaré de Garches.
On a un début d'accélération des admissions en réanimation. On en a eu par exemple 2 patients en 48 heures, alors qu'on en avait eu 3 depuis le début du mois de juillet. Quant au profil des patients, beaucoup plus jeunes que lors de la première vague, autour de la 50aine, pas vaccinés ou partiellement vaccinés. On craint effectivement une 2e semaine, une 3e semaine du mois d'août compliquée. Il y aura une augmentation substantielle du nombre d'admissions en réanimation et que les effectifs ne sont pas au rendez-vous. Parce qu'en plein milieu de l'été, les soignants aspirent et aspiraient à quelques jours de repos. Et donc, ça va être très compliqué de pouvoir augmenter le nombre de lits au mois d'août. Donc, on appréhende un petit peu, effectivement, les 15 jours à 3 semaines qui s'approchent.
Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Plus de 25 000 nouvelles contaminations dans les dernières 24 heures. Les autorités imposent le retour du masque à l'extérieur en Haute-Savoie ou encore en Loire-Atlantique. Mais c'est en Outre-mer que la situation est la plus inquiétante face à la saturation des services de santé. Trois premiers patients hospitalisés en Martinique doivent être transférés demain vers Paris. Lille est reconfinée à partir de ce vendredi soir et pour trois semaines. L'épidémie flambe aussi sur une autre île, celle de la Réunion, reconfinée partiellement à partir de ce week-end. Et pour deux semaines, les habitants d'outre-mer sont beaucoup moins vaccinés que ceux de la métropole.
Le vaccin pointé du doigt après la mort d'un jeune homme dans l'Hérault.
Il avait 22 ans, il est décédé 9 heures après sa première injection. Son cas a été largement repris sur les réseaux sociaux par les anti-vaccins, mais il pourrait en fait avoir succombé à une allergie alimentaire. Une enquête est en cours. Son père, sous le choc, espère avoir des réponses.
On tient par-dessus tout à ce qui n'est pas de récupération politique indécente. On ne veut pas que la mort de notre fils soit utilisée. Et certes, il avait un terrain allergique très violent. Il n'avait plus jamais fait d'œdème depuis l'âge de ses 7 ans. Et là, ce n'est pas un œdème qu'il a eu, ça a été une explosion de l'organisme. On n'a rien pu enrayer. Plus on l'a soigné, et plus il est allé vers la mort. Donc ça veut dire qu'il y a eu autre chose qui s'est passé. Et c'est pour ça que nous avons demandé une autopsie, parce que notre fils, c'était un dieu grec, notre fils. Si sa mort peut permettre à d'autres parents d'éviter ce que nous sommes en train de subir, c'est une douleur que je ne souhaite à personne. Je vais aller au bout de la recherche scientifique pour connaître ce qui s'est passé pour mon fils.
Alors qu'est-ce qui s'est passé justement? Ce qui semble acquis, en tout cas, Sinamir, c'est que le vaccin seul n'a pas pu déclencher cette réaction.
Effectivement, car l'ensemble des spécialistes que l'on a contactés sont formels. Une réaction allergique directe, 9 heures après, c'est impossible. Un œdème de coin qui apparaît normalement dans les 15 à 30 minutes qui suivent. Maxime le savait, en a déjà fait enfant, l'a signalé avant son injection et a donc été surveillé plus longtemps après sa première dose au centre de Sète lundi. Ensuite, dans la soirée de son décès, il y a eu ce dîner où le jeune homme aurait ingéré de l'arachide à laquelle il était allergique. Plusieurs hypothèses donc pour les enquêteurs désormais. Une allergie grave à la cacahuète, allergie simple. Deuxièmement, le vaccin qui a amplifié sa réaction allergique connue. Ou alors troisièmement, un conflit avec un médicament administré pour traiter le jeune homme. La première autopsie dont on attend les résultats dans les heures et les jours à venir ne devrait pas permettre de le savoir. Prudence donc. Il faudra attendre encore d'autres examens complémentaires, précise le parquet, avant de pouvoir dresser la chaîne exacte des causes de la mort de Maxime Beltra.
Les explications de Sinamir pour RTL. Un an de prison ferme pour avoir vendu des faux certificats de vaccination. Une employée d'un centre de Villepinte a été condamnée hier par le tribunal de Bobigny. Elle avait généré 200 QR codes qu'elle vendait sur les réseaux sociaux pour un butin qui s'élève à 40 000 euros. L'argent de son trafic a été saisi. Elle devra en plus payer une amende de 10 000 euros.
Alexandre, des poulets qui grossissent 4 fois plus vite que la normale.
Attention aux âmes sensibles, une association de défense des animaux publie ce matin une vidéo tournée dans un élevage de 35 000 volailles dans les Pays de la Loire. On voit des poulets qui n'arrivent même plus à tenir debout, Nathan Bocard.
Des carcasses en décomposition sur le sol du poulailler. Des poulets qui boitent, voire incapables de se lever pour aller boire ou manger. C'est ce que montre cette vidéo dévoilée par l'association L214 et commentée par l'actrice Julie Depardieu.
Ces poulets ont à peine 30 jours et déjà beaucoup d'entre eux ne tiennent plus debout. Ils ont grossi si vite que leurs pattes ne supportent plus le poids de leur propre corps.
Le résultat d'une sélection génétique des poulets, selon Raphaël Martinez, chargé de campagne pour L214, l'objectif du propriétaire de l'abattoir, le groupe LDC, c'est la rentabilité.
Tout ça, c'est en partie la conséquence de l'utilisation d'une souche de poulets à croissance ultra rapide. Donc c'est une souche qui est utilisée notamment par LDC pour avoir des poulets qui grossissent extrêmement vite, qui sont extrêmement lourds très rapidement, donc extrêmement rentables au détriment de la santé des poulets.
L'association a porté plainte contre LDC pour mauvais traitement et violation de la réglementation. Dans un communiqué, le groupe s'est dit conscient que les images peuvent choquer, mais il assure faire des efforts constants pour le bien-être animal et l'amélioration des conditions d'élevage.
Nathan Bocard pour RTL. Une bonne nouvelle ce matin, malgré la météo capricieuse de ces derniers mois. Le prix des fruits et légumes revient à son niveau d'avant la pandémie, après une année record en 2020. Moins 5% pour le prix des fruits bio, sauf pour les cerises. Selon l'Observatoire de Famille Rurale, l'association appelle les pouvoirs publics à instaurer un chèque fruits fruits et légumes, une aide financière à destination des familles les plus modestes.
Nous allons à présent sur l'île aux Moines où pendant les vacances, les pompiers se mettent au vélo.
Un moyen de transport insolite qui permet de se rendre plus rapidement sur les lieux et ainsi assurer les premiers secours, Nicolas Bobby.
Dans les ruelles particulièrement étroites de l'île aux Moines, les nombreux vacanciers s'écartent pour laisser passer le vélo des pompiers équipés de son gyrophare. Le sapeur Malo Cadoret pédale dans la tenue habituelle d'intervention des soldats du feu.
Pantalon, kermel et ranger. Non, pas d'assistance électrique, non, sinon ce serait trop facile.
Vous allez transpirer sur le vélo.
Ouais, mais c'est pas grave, ça maintient une bonne condition physique.
La monture possède deux sacoches bleues qui n'ont plus de secret pour Timothée Ernott, pompier saisonnier.
Du matériel du premier secours, principalement. Pansement, compresse, de quoi faire du premier secours assez léger.
Sur l'île aux Moines, les missions ne manquent pas. Nadia Guijoli, chef de corps.
On a de la bobologie, on a énormément de chutes de vélo, plus des assistances domicile.
Pour une détresse vitale, chaque minute compte, le commandant Philippe Coindreau du SDIS-56.
Le vélo permet une arrivée rapide des secours, en attendant l'ambulance qui suit en rencontrant des difficultés de circulation.
Prêtée par des ambulanciers de Nantes, cette bicyclette est de couleur jaune.
Et en plus, il est écolo. Reportage de Nicolas Bobby dans le golfe du Morbihan pour RTL.
On n'oublie pas les courses, surtout pas les courses, c'est à Cabourg ce vendredi.
Les pronostics de Jordan Philippi pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 16, le 15, l'As, le 8, le 9, le 6, le 7 et la dernière minute, c'est l'As émotion bleue.
C'est un joli nom. Vous revenez à 8h tout à l'heure, Alexandre de Saint-Aignan. Et toute l'actualité, c'est l'appli RTL. L'actualité du matin, si vous nous rejoignez, c'est la sortie au tournoi olympique de Teddy Riner. Il n'aura pas la médaille d'or olympique, notre colosse. On y revient dans 5 minutes dans le journal des Jeux. Tokyo, le Japon, ça fait l'actualité. On se promène d'abord.
RTL, un été en France.
Un été en France.
La carte postale matinale nous arrive du massif des Vosges ce matin, au cœur de cet été, au cœur du parc naturel régional. Bonjour Yannick Collant.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Nous sommes avec vous dans la ferme auberge de la Vasmat. On y travaille en famille, au milieu des vaches, on y fabrique du fromage et on accueille même des randonneurs qui viennent déguster de bons produits locaux. Yannick, décrivez-nous.
Oui, accueilli sur le sentier par le troupeau de vaches vosgiennes qui se baladent en liberté. La traite vient de se terminer dans cette ferme auberge familiale et la première activité de la journée pour David Reich, le fils de la famille, c'est de fabriquer le fromage.
Du lait pour faire du Munster, on a à peu près 150 litres, ce qui va nous donner une petite trentaine de fromages. Et maintenant, on va sortir un peu de petit lait pour avoir la texture qu'il nous faut. Et après, on va mettre ça en moule.
Et donc, le petit lait, après, il va finir où ?
Donc celui-là, on va le ramener au cochon. Après, on a quelques cochons pour l'auberge. Pour la charcuterie, tout ça.
À côté du Munster, il y a également une sorte de fromage blanc qui sera servi au dessert tout à l'heure.
C'est le Siaska. C'est vraiment le dessert typique. Une sorte de fromage blanc assez moelleux. Un régal, quoi, accompagné de crème et de kirsch. Ça vaut le détour.
Côté cuisine, c'est Sandra, la maman, qui est la patronne.
Et là, à midi, on a un rôti de veau également, avec des nouilles maison. Ça, c'est des roiga pragelvi. Après, ça se traduit franchement même pas, quoi. C'est pas mettre pommes de terre, cuites aux lardons et aux oignons. Et à midi, on va les écraser avec une cuillère en bois. Avant ça, on n'y touche pas.
Gabriel, le papa, abandonne ses vaches pour devenir aubergiste. Le temps du déjeuner, une cinquantaine de clients sont attendus sous les grosses poutres en bois de la salle à manger ou sur la terrasse avec une vue sur la vallée.
C'est une ferme familiale, voilà, qui est dans la famille depuis au moins 4 générations. Et voilà, donc mon arrière-grand-père montait déjà en estive, en été. Donc nous, on est environ 25 vaches laitières. Une grande partie de la production est transformée en été pour les besoins de l'auberge.
Et alors, vous êtes plutôt fermier ou plutôt aubergiste ?
On est les deux. L'un ne va pas sans l'autre, on a besoin des deux.
La ferme auberge n'est ouverte que de mi-mai à mi-octobre.
Quand l'herbe est un peu plus grasse, verte au printemps, on monte là-haut. Et puis en automne, quand il n'y a plus d'herbe en haut, le troupeau il redescend.
C'est une arbière si vous avez.
Un ordi, monsieur.
Ah ben voilà.
Les premiers randonneurs arrivent déjà. Merci. Guy et Robert viennent de faire 1h30 de marche en montagne. À 80 et 85 ans, avec un triple pontage, ils crapahutent toujours. Avec un objectif de randonnée assez clair, il faut arriver pour le déjeuner à la ferme auberge.
On choisit toujours la randonnée en fonction de la ferme aussi, et pas le contraire. C'est trop agréable.
Vous savez, quand on a bien mangé, bien bu dans la ferme, ça vous regonfle, vous repartez d'un bon pied. durant l'effort. C'est déjà l'idée, le plaisir de pouvoir s'asseoir, de boire un coup, de bien manger. Ça vous encourage à avancer, quoi.
Et en tout cas, après ce passage dans la ferme auberge de la Vasmat, les randonneurs repartent le ventre plein et l'esprit léger sur les sentiers du Petit Ballon.
Ça donne envie. Yannick Holland dans les Vosges. Un été en France, tous les matins sur RTL, vous le savez. 7h14, dans un instant, les résultats de la nuit à Tokyo, toutes les images, les commentaires, bien sûr, ça a été une nuit cauchemardesque pour les Bleus au jeu. À tout de suite.
RTL à Tokyo.
Comme promis, les Jeux Olympiques, on y va. C'est avec Quentin Vasselin en studio à mes côtés. Bonjour Quentin.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et sur place, nos envoyés spéciaux, bonjour Isabelle Langer et Nicolas Burnand.
Bonjour messieurs.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Isabelle, l'événement de la nuit, c'est donc la défaite de Teddy Riner. Il est allé au sol, le Colosse n'aura pas de troisième médaille d'or.
Ah oui, cruelle désillusion pour Teddy Riner. Effectivement, il voulait entrer dans la légende, être le premier judoka chez les lourds à remporter 3 titres olympiques, comme l'avait réussi la légende japonaise Tadahira Nomura, qui avait réussi cette performance chez les moins de 60 kilos en 96, 2000 et 2004. Seulement voilà, le colosse français a chuté en quart de finale contre le numéro 1 mondial de la catégorie, le russe Bachaïev. Tout au long d'un combat tendu, Bachaïev ne s'est jamais vraiment montré dangereux, récoltant même 2 pénalités, mais il a sauté sur l'unique occasion qui s'est présentée à lui dans le Golden score pour battre l'immense favori tricolore. Une défaite sur Ouazahari et je vous propose d'écouter Stéphane Nomis, le président de la Fédération Française de Judo.
Oui, c'est très très dur. Il était venu que pour l'or, de perdre en quart de finale contre le numéro 1 mondial et champion du monde en titre. C'est, mais voilà, ça atténue un peu. Il perd pas contre n'importe qui. Au golden score, voilà, mais il faut être au rendez-vous et t'as pas le droit à la moindre erreur. Il a fait une toute petite erreur et qui lui coûte cher, quoi.
Est-ce que son genou et la cause principale, est-ce que physiquement il était à 100%?
Nous, apparemment, il n'y a pas question de physique. Là, c'est une erreur technique. On voit bien, c'est pas physiquement qu'il a craqué, c'est techniquement. Il a voulu faire un contre, alors que l'autre, il a poursuivi son action. C'est de la pure technique du judo. C'est l'action dans l'action. On ne peut pas rêver mieux en judo. Et donc, pour moi, voilà, c'est juste qu'il ait perdu. Maintenant, j'espère qu'il va aller chercher le bronze, qu'il va se battre, qu'il va se remobiliser. C'est une médaille de plus aux Jeux Olympiques. Il n'y en a pas beaucoup qui ont autant de médailles. Donc, j'espère qu'il va aller la chercher.
Isabelle, Stéphane Nomis parle d'une erreur technique. Pourtant, la question est quand même légitime. Est-ce que Teddy Riner était prêt physiquement pour ce combat et pour ces Jeux en général ?
On sait que depuis 5 mois, Riner avait entamé une course contre la montre après s'être blessé au genou, ligament croisé postérieur déchiré. Le judoka avait d'ailleurs caché cette blessure finalement révélée la semaine dernière. Et aujourd'hui, personnellement, je ne l'ai pas trouvé à 100% physiquement. Je l'ai trouvé moins mobile dans son deuxième combat, notamment contre l'Israélien Sasson. Et alors qu'il attendait de disputer son quart de finale, eh bien, le programme avait pris du retard. Teddy attendait de rentrer dans l'arène. Son entraîneur, Franck Chambilly, lui a alors amené une chaise pour qu'il s'assoie, alors qu'à côté, Bachaïev faisait l'huile et sans pas.
Isabelle, donc, il est sorti en quart de finale. Il peut quand même rapporter une médaille à la délégation tricolore.
Oui, une médaille de bronze. Pour cela, il doit encore remporter 2 combats, à commencer par celui des repêchages contre le Brésilien Da Silva, médaillé de bronze aux Jeux de Rio. Et gageons que sa psychologue Myriam Salmi, qui est ici en tribune, va faire tout ce qu'il faut pour que Riner, qu'elle connaît depuis son adolescence, aille chercher cette breloque.
Teddy Riner a 32 ans, Isabelle Langer. Est-ce qu'on peut espérer le voir en 2024 à Paris?
Eh ben moi j'ai envie de dire que malheureusement c'est presque ce qui pouvait lui arriver de mieux pour aller à Paris, pour qu'on ait le bonheur de le voir à Paris. Cette défaite aujourd'hui, il va vouloir aller chercher quand même ce 3e titre olympique, qui plus est à Paris, devant son public, parce qu'on sait que sa fratrie, et son clan, sa tribu, lui a manqué aujourd'hui.
On s'intéresse aux filles parce qu'elles sont là et heureusement, on a une bonne chance avec Romane Dico.
Ah oui, des dreadlocks bleu, blanc, rouge, 21 ans. Elle espère succéder au palmarès à Émilie Andéol, championne olympique à Rio en 2016, en plus de 78 kilos. J'ai parlé avec Émilie tout à l'heure, elle m'a dit « Elle est monstrueuse, Romane. Elle est en demi-finale contre la cubaine Ortiz. Je peux vous dire qu'elle a envoyé ses 2 premières adversaires sur Ippon au tapis. Elle a même envoyé la 2e à l'hôpital. »
Romane Dico, on va suivre tout cela, bien sûr, et la suite de Teddy Riner. Merci, Isabelle.
Nicolas Burnand, on attendait plusieurs médailles en BMX ce matin, mais là aussi, c'est la douche froide.
Ah oui, ultra favori. 3 tricolores sont sur la butte de départ de cette finale, dans le coup au coude à coude avec les meilleurs, emmenés par le néerlandais Niek Kimane, vainqueur de cette course. Ça se pousse, ça se frotte sur les bosses. Sylvain André s'accroche, distancé dans les derniers mètres. Il a beau vérifier le tableau lumineux, il est 4e au pied du podium. Il le raconte à nos confrères de France Télévisions.
Je suis très bien sorti. J'ai du mal à choper la réception de la deuxième bosse. Avec Joris, on est 3 et 4, on s'accroche. Un premier virage, je repars de loin. Je suis. Après, je suis pas assez proche pour rattraper les deux devant. Quand Joris tombe, je fais une petite erreur. Voilà, je suis en vouloir quand même.
Joris Daudet, troisième avant le dernier virage, est tombé. Il est resté de longues minutes à terre, son visage dans ses mains, ses espoirs de médaille envolée. Le Français, double champion du monde, explique ne toujours pas comprendre pourquoi. Il avait déjà chuté en demi-finale à Londres en 2012, en quart à Rio en 2016. Mais il refuse de voir le sort s'acharner. Cette finale en un seul run est cruelle. Chaque erreur se paye cash. Romain Mailleux, sixième, ne veut pas se lamenter. À nouveau au micro de France Télévisions.
Si on sortit du premier virage, on se suit, il n'y a pas de chute, ben voilà, on se suit tout le long, donc un peu déçu forcément. La journée est bien commencée, c'est une finale olympique, c'est mes premiers jeux, donc je vais prendre tout le positif et repartir pour Paris.
Attendu au tournant à Tokyo, le BMX français a déçu, mais sera au rendez-vous en 2024 à la recherche de sa première médaille olympique.
Chez les dames, ça n'est pas beaucoup mieux puisqu'Axel Etienne, 23 ans pour ses premiers Jeux Olympiques, termine seulement 7e de cette finale.
Et puis Quentin, dans la série des grosses déceptions, il y a l'escrime. Hein.
L'épée par équipe homme s'incline en quart de finale contre le modeste Japon d'une petite touche, 45-44. C'est simple, la France était championne olympique depuis 2004. 3 médailles d'or de suite. Et pourtant, ce relais était composé de Romain Canon, récent champion olympique, et Yannick Borel, champion du monde de la spécialité en 2018. Ce dernier a subi un cruel et un sanglant 9-6 fatal dans le dernier relais. Il est assommé au micro de nos confrères de France Télé.
Je sais qu'à plus 2 ou moins 2, c'est toujours un match très serré, qu'il faut faire attention. Je pense bien rentrer dans mon match. Après, je fais des erreurs, il en profite. Ça donne un match à une touche. Je me dis qu'il faut que je prenne la décision. Peut-être trop précipité. J'ai du mal à analyser à chaud comme ça. Je pense que nous, en tant qu'athlètes, on va se mettre au travail, voilà, avec beaucoup d'humilité. Et pour le reste, je pense que ça revient au coach.
Voilà, Kata donc en escrime, on l'a bien compris, c'est pas beaucoup mieux pour les autres résultats de la nuit, Quentin, c'est pas meilleur. Hein.
Non, natation, le cauchemar continue pour la France. Pas de finale du 100 mètres papillon pour Mehdi Metella, de retour dans les bassins depuis moins d'un an après une grosse opération à l'épaule et à court de préparation.
Je regrette rien, on va dire. J'ai passé une superbe année avec des moments très durs. C'est la magie des jeux. Hein. Soit tu arrives, tu es super en forme, ou soit tu es un peu fatigué, ou soit tu es entre les deux. Mais bon, c'était que du bonheur.
Kata aussi en tir à l'arc, Lisa Barbelin, championne d'Europe 2021, éliminée en huitième de finale. Pas de médaille enfin pour Léa Labrousse en trampoline. En athlétisme, c'est le début du sport roi des Jeux Olympiques aujourd'hui. 3000 mètres stilp, Djilali Bedrani et Louis Gilavert éliminés dès les demi et qualification quand même de Alexis Féchu. En 800 mètres, qualification facile de Ronelle Lamotte, elle remporte sa série et file en demi. Forcément, elle est ravie après son échec des JO en 2016.
Rio, pour moi, ça a été un traumatisme. Du coup, là, j'avais pas envie de revivre le même, donc c'était très important. Les séries, il fallait sous-estimer personne. Là, demain, ça va être vraiment l'objectif ultime de passer. Je vais tout donner pour passer en finale, parce que justement, je sais qu'en finale, là, ce sera ouvert cette année et je veux surtout pas louper cette chance.
Tir à 25 mètres, Céline Goberville et Mathilde Lamolle finissent 32e et 12e de la finale. Rugby à 7, quand même, c'est la petite éclaircie de la journée. Victoire facile des Françaises, 31-0 contre le Canada, 3e succès en 3 matchs. Elles filent en quart et elles affrontent la Chine à 12h.
Voilà les résultats de la nuit avec Quentin Vasselin, avec nos envoyés spéciaux Isabelle Langer et Nicolas Burnand. On va les retrouver régulièrement sur notre antenne, bien sûr. Ces jeux, on les commentera longuement tout à l'heure avec notre invité ce matin à 7h45, la ministre chargée des sports, Roxana Maracineanu, sera en studio et en direct. Restez bien là, 7h23, la musique arrive avec la pépite d'Anthony Martin.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Place à la musique avec la pépite du matin. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On vous écoute.
Un mariage entre rock et swing aujourd'hui. Alors c'est risqué, mais quand c'est astucieux, c'est merveilleux. Souvenez-vous, en 1991, on découvrait ce morceau. Là-dessus, hein, c'est notre génération. Smells Like Teen Spirit du groupe Nirvana. Cette chanson et son album ont tout balayé sur leur passage. Nirvana a influencé une génération de musiciens. Il a fait beaucoup de chemises à carreaux. Hein. C'était un des vêtements fétiches du chanteur Kurt Cobain, mort à 27 ans en 1994. 10 ans après cette disparition, le crooner canadien Paul Anka connu pour être l'auteur de My Way, l'adaptation de la chanson comme d'habitude, s'est emparé de cet hymne grunge. Il l'a dépouillé de sa rage et de ses guitares saturées pour lui donner un sourire éclatant et un smoking. C'est notre pépite du jour, Paul Anka, qui a 80 ans ce 30 juillet, fait swinger Nirvana avec grand orchestre.
I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm alive.
C'est moins grunge, mais c'est beau. Hein.
Ah ouais, c'est une version bien peignée du rock'n'roll. Smells Like Teen Spirit par Paul Anka, c'est très réussi. On la trouve dans le disque Rock Swings du Crooner, sorti en 2005. Pour la petite histoire, ce titre de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, qui fait référence à l'adolescence, ne cache en réalité aucune promesse de rébellion adolescente. Le Teen Spirit, vous savez ce que c'était ? C'était un déodorant aux États-Unis et une amie du chanteur Kurt Cobain lui disait « Ça sent le Teen Spirit » à chaque fois qu'elle venait chez lui. Voilà comment est né le titre Smells Like Teen Spirit.
Histoire d'une pépite ce matin. Pépite musicale avec Anthony Martin. What I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low. Notre remède à la morosité des grosses têtes version Laurent Ruquier, c'est 15h30 cet après-midi, 2h30 de rire et de bonne humeur. On parle de tout et même de Madonna.
Monsieur Manœuvre, Madonna, alors elle en
alors
est
elle
où
va venir, en fait, elle va chanter une ancienne chanson comme Like a Virgin sans doute et elle va profiter de l'occasion pour faire son nouveau single.
Absolument. Carrément, elle est géniale, Madonna. Elle est toute frippée, elle a adopté la moitié du Malawi. Il faut bien qu'elle les fasse bouffer, les gamins.
Vous êtes la Madonna d'aujourd'hui.
Un petit peu, oui, c'est vrai.
En plus jeune.
Une carrière internationale.
Ah bah, votre tour, là, comment s'appelle votre tournée à travers la...
On the road again.
On the road again. Vous lancez votre culotte à la fin.
Oui.
On la lui envoie.
Votre gain. On the road again, ça vient de là.
Laurent Ruquier, ses grosses têtes vous attendent à 15h30 cet après-midi et quand vous le souhaitez en podcast, bien sûr, sur l'appli RTL. 7h28, Anthony, le ciel. Ben voilà.
On est reparti pour un temps mitigé et changeant avec une perturbation qui traverse le pays d'ouest en est aujourd'hui. Elle est essentiellement nuageuse et surtout venteuse. On va la retrouver ce matin entre la Gironde, le centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France avec donc beaucoup de nuages, quelques pluies éparses ici ou là et surtout un très net renforcement du vent jusqu'à 90 km/h en rafale près de la Manche, 60 à 70 dans toutes les terres de la moitié nord. Alors avant le passage de la perturbation, vous aurez de belles éclaircies entre la Lorraine, la Bourgogne, en Alsace d'ailleurs toute la journée, et puis après son passage, retour des averses par les côtes de la Manche, et donc entre les deux, on peut compter sur quelques éclaircies à la mi-journée, vers l'Île-de-France, la Champagne et la Vendée. Attention aussi aux orages ce matin, il y en a quelques-uns dans le sud-ouest, vers les Landes, vers la Dordogne, et puis surtout d'autres un peu plus violents entre l'Auvergne, Rhône-Alpes et la vallée du Rhône. Ils peuvent parfois s'accompagner de grêle jusqu'à ce soir, donc prudence, et évidemment toujours le soleil autour de la Méditerranée. Les températures en cours d'après-midi, elles seront toujours fraîches, sauf dans l'est et dans le sud-est, avec encore 32 degrés à Bastia, 30 à Marseille, 29 à Strasbourg, 28 à Lyon et à Nice, 27 à Nancy, mais seulement 24 degrés à Paris, à Bordeaux et à Toulouse, 22 à Lille, 20 degrés à Brest, et une fraîcheur bien britannique avec l'influence de cette dépression, 19 pour Le Havre et pour Cherbourg.
Et toujours pas de nouvelles de l'anticyclone ?
Toujours pas, il est porté disparu.
J'espère que ces vacances se passent bien. Bienvenue à vous tous, il est 7h30. Nuit.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h30, c'est toute l'actualité du vendredi avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1 million de voyageurs attendus ce week-end dans les gares.
Avec le fameux chassé-croisé du monde aussi dans les avions, alors que sur les routes, la journée de demain sera classée noire dans le sens des départs. Entre le gel et les pluies, les fruits n'ont pas été épargnés par la météo, mais le miel aussi a subi de plein fouet ce temps apocalyptique. Moins 80% de production cette année. Et puis on reviendra sur l'immense désillusion pour le judo français à Tokyo et l'élimination de Teddy Riner en quart de finale des JO.
RTL Matin.
Il est aussi redouté l'été que les coups de soleil sur la plage le week-end de chassé-croisé.
Entre ceux qui reviennent de vacances et les autres qui préfèrent partir au mois d'août, c'est orange aujourd'hui dans les deux sens. Demain, ce sera noir pour les départs. Et il n'y a pas que sur les routes qu'il risque d'y avoir du monde. Ça va aussi se bousculer dans les aéroports et dans les gares, nos touches.
Oui, le million, c'est le nombre de passagers attendus par la SNCF dans les gares tout au long de ce week-end. C'est tout simplement le plus gros week-end de l'été. Les villes les plus prisées sont Bordeaux, Lille, Nantes, Marseille ou encore Rennes. Au global, pour le mois de juillet, le taux de réservation est de 90% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Et le nombre de réservations de ce mois de juillet est supérieur à celui de l'année dernière. Dans les airs, cette fois, les aéroports franciliens se préparent à accueillir du monde. 80 000 passagers par jour à Paris-Charles de Gaulle et 22 000 dès aujourd'hui pour Orly. Les vols vers la Grèce ou l'Espagne restent d'ailleurs toujours plébiscités en ce milieu d'été. Néanmoins, même si ces chiffres restent honorables, le trafic des aéroports parisiens reste deux fois moins important qu'avant la crise sanitaire.
Les précisions d'Arnaud Touche. Et on le rappelle, le pass sanitaire dans les trains, ce sera à partir du 9 août. Il est par contre obligatoire pour prendre l'avion.
Et pour les routes, la prudence s'impose. Bien sûr, on en parlera à 8h20 sur RTL tout à l'heure avec notre invité en direct, Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention Routière. L'actualité, c'est également l'outre-mer, Hortense, qui se met en ordre de marche pour faire face à la quatrième vague.
La Réunion et la Martinique s'apprêtent à se reconfiner dès ce week-end pour freiner la propagation des contaminations. L'outre-mer, où la population est très faiblement vaccinée. Hier, en déplacement dans le Lot-et-Garonne, où il a visité un centre de vaccination, le Premier ministre Jean Castex a de nouveau appelé à se faire vacciner. Pour lui, c'est une question de survie.
La situation est, je vous le dis, dramatique. Ils sont rétifs à la vaccination. Le système sanitaire est en conséquence extrêmement impacté. Il y a vraiment une différence nette, visible, c'est la preuve par l'exemple, entre les populations qui se vaccinent et celles qui ne se vaccinent pas. Et je voudrais avoir une pensée pour tous ces pays du monde qui eux rêveraient de se vacciner, mais qui n'y ont pas accès, n'ont pas les moyens. Et s'ils manifestent, c'est pas pour dire non au vaccin, croyez-moi. C'est une question de survie.
Le Premier ministre Jean Castex hier à Agen.
Et puis vous l'avez peut-être constaté en faisant vos courses, et c'est une bonne nouvelle, les prix des fruits et des légumes ont diminué.
Ou plutôt retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, c'est ce que révèle l'association Famille Rurale dans son dernier baromètre. Un fruit par contre est toujours touché, la cerise. Et cela à cause du gel et des pluies des derniers mois. Et ce n'est pas le seul produit à avoir été victime de la météo. Le miel aussi a subi de plein fouet ce temps catastrophique. Moins 80% sur les récoltes en moyenne. Comme dans les Vosges, c'est cette productrice pour qui la situation est clairement inédite, Dimitri Ramelot.
Dans sa combinaison, l'apicultrice et son assistante Lily rentrent inlassablement les ruches à l'intérieur de la miellerie. Plusieurs dizaines s'entassent déjà et toujours le même constat.
Les cadres là qu'on vient d'extraire ce matin, il est tellement vide qu'on peut le stocker directement pour l'hiver puisqu'il n'y a rien. On se dit à l'année prochaine.
Et pour le tandem, l'urgence, c'est de nourrir les abeilles avec du sirop, comme en hiver, pour éviter qu'elles meurent de faim. Car depuis les gelées du printemps ajoutées aux pluies du début de l'été, l'activité des insectes est quasi nulle.
Les abeilles sous la pluie, ça vole très mal, ça sort pas. Et puis la floraison et les champs, le manque de soleil, le manque de chaleur. Là, à l'heure actuelle, on est à 4 kilos par ruche.
Au lieu de
20 en moyenne. C'est une saison qui est pour nous finie, puisque le peu qui reste, ça sera pour elle. Là, on est au chevet de l'abeille.
Et l'absence d'activité de l'extracteur provoque une hausse inévitable des prix, notamment du miel de sapin, le produit haut de gamme.
Ça fait très longtemps que je suis sur du miel de sapin à 24 euros du kilo. Et là, on passe à 26 du kilo. Économiquement, il faut qu'on continue à pouvoir payer nos charges. On vit sur nos réserves. Mais on tiendra pas longtemps.
Et Lily regarde chaque heure la météo, orage et pluie encore à venir. Confirmation dès l'été d'une année blanche sur les versants du massif des Vosges.
Le reportage de Dimitri Ramelot et Famille Rurale demande d'ailleurs au pouvoir public d'instaurer un chèque fruits et légumes pour les plus modestes.
On file au Japon pour les JO.
RTL à Tokyo.
La désillusion, la débâcle, la défaite, la déception, beaucoup de mots pour qualifier ce qui s'est passé ce matin, un peu avant 6h sur le tatami. Il y croyait, nous aussi, mais c'est finalement le numéro 1 mondial, Batchaïev, qui s'est imposé. Teddy Riner ne sera pas sur la première place du podium au temple du judo. C'est un immense coup dur pour le double médaillé olympique français, Isabelle Langer.
Oui, mais il reste une médaille de bronze à aller chercher. Tout le travail actuellement des deux entraîneurs de Teddy Riner, Franck Chambilly et Laurent Caléja, c'est de le remobiliser. Pour cela, ils sont aussi épaulés par Myriam Salmi, sa psy. Parce que même si c'est une cruelle désillusion, cette défaite en quart de finale pour le poids lourd français, il y a effectivement une médaille de bronze à aller chercher. Une quatrième breloque pour lui en autant de participation aux JO. Troisième à Pékin en 2008 pour ses premiers Jeux. Riner est ensuite devenu le numéro 1 de sa catégorie en remportant l'or à Londres, puis à Rio en 2007, à 16, assorti à 10 couronnes mondiales, 154 combats remportés consécutivement avant de chuter en février 2020 au tournoi de Paris. Un échec qui l'a fait se remettre en question, revoir sa préparation. Et alors que tout semblait remis en place, il s'est blessé il y a 5 mois au genou, une blessure qu'il a cachée et qui n'a été révélée que la semaine dernière dans un reportage. Depuis février, on comprend que le double champion olympique a effectué une course contre la montre afin d'être à 100% physiquement à Tokyo. Pas certain que ce soit le cas. En tous les cas, il lui reste 2 combats à disputer ici s'il veut monter sur le podium ce soir. Et ça commence tout à l'heure en repêchage contre le Brésilien Da Silva qui était en bronze à Rio il y a 4 ans.
Merci Isabelle Langer, envoyée spéciale de RTL sur ces JO et que vous retrouverez dans On refait les Jeux à 18h30, présenté par Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Et toujours en judo, Romane Dico est-elle toujours en course pour la catégorie des plus de 78 kilos. Elle affronte en demi-finale tout à l'heure la Cubaine Ortiz. Romane Dico, 21 ans, est là pour décrochez l'or, parce que ne comptez pas sur d'autres médailles pour vous consoler ce matin. En escrime, l'épée par équipe homme s'incline en quart contre le Japon. La France était championne olympique depuis 2004. En BMX, la douche froide aussi. 3 Français en finale qui promettaient beaucoup. Et là encore, aucune médaille. Et puis en handball, 4e match de poule, c'est en cours face à l'Espagne. Et les Français qui mènent pour le moment 10 à 8.
Et elle a dû vivre en direct tout à l'heure le choc, la défaite de Teddy Riner. Bien sûr, c'est Roxana Maracineanu, la ministre chargée des sports, qui est notre invitée en direct sur RTL dans quelques minutes.
Enfin, les JO vont peut-être vous inspirer justement si vous êtes en panne d'idées pour des prénoms pour un bébé. L'INSEE a dévoilé son classement annuel des prénoms les plus donnés en 2020 chez les plus de 730 000 nourrissons nés l'an dernier. Et il y a pas mal de changements, Valentin Boisset.
Oui, un prénom faisait la course en tête depuis 2004. Emma, eh bien, c'est terminé. Désormais, c'est Jade qui l'emporte chez les filles. Un prénom qui a connu 3814 occurrences en 2020 et il est suivi de très près par Louise. Cela faisait plusieurs années cependant qu'Emma chutait dans l'enquête de l'Institut. Un prénom qui commence donc à vieillir selon les experts de l'INSEE. Et chez les garçons aussi, il y a du changement car Gabriel était depuis 2014 le prénom préféré des jeunes parents français. C'est désormais Léo. Mais le plus intéressant, c'est peut-être l'éclectisme des prénoms donnés avec certains parents qui s'inspirent désormais des influenceurs d'Internet. Des percées fulgurantes comme Milan, c'est le prénom du bébé de Nabila, la star de télé-réalité qui fait son entrée à la 185e place du classement. À noter aussi la chute de 30 places du prénom Kylian qui avait été donné en masse après la Coupe du Monde de football de 2018 en référence à l'attaquant français Kylian Mbappé.
Les précisions de Valentin Boisset. Le foot donne pas mal d'idées, mais il y a de quoi faire avec les JO. Teddy, Clarisse, Althea.
Et Hortense, c'est pas mal aussi.
Oui, c'est différent.
Hortense Crépin revient vous informer tout à l'heure à 8h30 et vous avez l'appli RTL pour toute l'actualité quand vous le souhaitez. Dans un instant, c'est l'Angle Écho avec Anaïs Bouissou. On va parler de la très bonne santé des laboratoires en ce moment. À tout de suite.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
7h40, l'Angle Écho et donc les résultats financiers des laboratoires qui s'enchaînent cette semaine. D'abord Pfizer, puis AstraZeneca et Sanofi hier et des chiffres de profit qui donnent le tournis.
Oui, l'américain Pfizer table désormais sur ce chiffre dingue. Plus de 33 milliards de dollars rien que pour la vente de ses vaccins en 2021. Pour la start-up Moderna, c'est pareil. Son fondateur est devenu milliardaire. De leur côté, AstraZeneca et Johnson & Johnson disent vendre leur vaccin à prix coûtant. Sauf que produire le vaccin anti-Covid, c'est aussi s'offrir une visibilité, décrocher d'autres marchés qui permettent d'augmenter les bénéfices. Le chiffre d'affaires d'AstraZeneca a triplé au printemps par rapport au début de l'année.
Et Sanofi, le français qui espère son vaccin à la fin de l'année là.
Sanofi aussi vient de relever son objectif de bénéfice par action de 12% en prévision. Et ce n'est qu'un début au moment où le variant Delta fait rage et où Israël s'apprête déjà à administrer une troisième dose.
Anaïs, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est trop, qu'ils abusent ?
C'est toujours le débat. Doit-on s'offusquer que la réussite entraîne des gains financiers ? Dès l'instant où ces laboratoires sont des entreprises privées, qu'on le veuille ou non, il n'est pas illogique qu'ils gagnent beaucoup d'argent quand ils découvrent et distribuent le vaccin du siècle. Alors oui, ils ont été largement subventionnés par les États. Oui, c'est un enjeu de santé mondiale, mais la réalité, c'est que l'industrie pharmaceutique et même qu'une part importante de la recherche n'est pas publique.
Ça, c'est vrai, effectivement.
Ensuite, il ne faut pas oublier qu'avant de trouver les vaccins tous, quand ils se sont lancés, ils ont investi des sommes colossales en recherche, en nouvelles technologies, en expansion industrielle, sans aucune garantie que cela fonctionne. La plupart du temps, un vaccin ne devient rentable qu'au bout de plusieurs années. Évidemment, le vaccin anti-Covid, là, il est rentable tout de suite. Alors, il reste la question du juste prix de ces vaccins. Est-ce que les laboratoires gonflent ou pas artificiellement leurs marges ? L'ONG britannique Oxfam dit que oui. Les labos s'en défendent, ça mériterait au moins un peu plus de transparence. On peut espérer que la concurrence des futurs vaccins Sanofi, Novavax ou Valneva fasse naturellement baisser les tarifs.
Anaïs, il y a quand même la question de la distribution de ces vaccins. Au vu des profits colossaux des laboratoires, est-ce qu'il est acceptable qu'ils soient distribués à deux vitesses en fonction du pays dans lequel on habite ?
Non, ça en revanche, c'est difficilement acceptable. Écoutez ce chiffre terrible de l'AFP. Sur 4 milliards de doses injectées sur la planète, seuls 0,3% l'ont été dans les 29 pays les plus pauvres du monde. Et même si Pfizer-BioNTech prévoit de produire et distribuer des vaccins directement sur le sol africain, les doses ne seront pas disponibles avant 2022. Les pays développés font des dons, négocient des doses, mais pas assez et trop lentement. Les conséquences sanitaires sont effroyables en termes de victimes. Et au-delà, les séquelles sur l'économie seront durables. C'est ce que dit encore cette semaine le Fonds monétaire international. Le vaccin, c'est une fracture entre les pays riches et les pays en développement.
Et alors du coup, comment accélérer la vaccination partout dans le monde ?
Il y a une solution qui serait redoutablement efficace. Ce serait de faire tomber les brevets des vaccins anti-Covid. Partager les technologies, les savoir-faire pour permettre à tous de s'en servir largement. L'Inde et l'Afrique du Sud le demandent. Les États-Unis, la Chine, la France disent oui, mais certains pays s'y opposent. Tout consensus de l'Organisation mondiale du commerce a échoué jusqu'à présent. Lever les brevets, c'est limiter de fait l'emprise considérable des quelques laboratoires pionniers du vaccin. Ça va contre les lois du marché, mais justement, les bénéfices sont déjà là, on l'a vu. Et voir plus loin, ce serait encore plus grand. La santé publique mondiale et la reprise économique vaudraient bien cet effort pour le bien commun.
Anaïs Bouissou pour le décryptage du matin. L'Angle Écho, c'est à podcaster, bien sûr. Vous allez retrouver tout cela sur notre appli, notre site, sur vos tablettes et vos smartphones. Vous restez bien là. Dans un instant, la ministre chargée des Sports va s'installer en studio après le tremblement de terre de la nuit à Tokyo, la défaite de Teddy Riner. A tout de suite.
RTL Matin.
Pour tout savoir des coulisses de l'info. .fr.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Bienvenue à vous tous, 8h moins le quart en ce vendredi en direct et en studio en ce 30 juillet. L'invité de RTL Matin est donc la ministre chargée des Sports au cœur de l'actualité. Bonjour à vous Roxana Maracineanu.
Bonjour.
Est-ce que d'abord la ministre et la vice-championne olympique est du genre à se lever très tôt ou à regarder tout ça la nuit pour suivre les Jeux japonais ?
Bien sûr, on s'est levé d'autant plus aujourd'hui, ce matin avec Teddy, qu'on suivait.
Ça a été douloureux ?
Ça a été douloureux, c'est sûr que je ne viens pas vous voir dans la meilleure des matinées, puisque à côté de Teddy, il y a eu aussi d'autres athlètes qui pensaient pouvoir monter sur le podium, qui n'y sont pas arrivés. Mais il y a encore une belle médaille de bronze à chercher pour Teddy. Et puis, voilà, je pense qu'il faut saluer sa longévité et puis sa ténacité jusqu'au bout. On a tous découvert aussi dans un reportage de France Télévisions ses difficultés, les difficultés qu'il a rencontrées cette année, que ce soit avec sa blessure, que ce soit aussi dans sa vie familiale, avec l'arrivée de sa petite fille, aussi tout le questionnement qui était le sien avec le report des Jeux. Et voilà, c'est tout simplement difficile, compliqué, c'est 16 ans de vie, 4 Jeux Olympiques à la suite, c'est pas rien. Et donc là, voilà, sa montagne à gravir pour la journée, c'est aller décrocher cette médaille de bronze.
Et lui, il vise l'or. Teddy Riner, il ne vise que l'or olympique. Comment se remobiliser, là, comme ça, en quelques minutes ?
Ben, ça va être son défi. Son défi, c'était d'aller chercher sa troisième médaille d'or. Là, Voilà, ça va être une médaille de bronze. Et puis, dans 3 ans, il y a Paris. Mmh. On verra ce qui décidera suite à cette compétition ici, où c'est vrai que son année n'a pas été facile. Moi, je l'ai trouvé physiquement bien. Mais c'est vrai qu'on peut, sans doute à cause de sa blessure, regretter le manque de compétition qu'il n'a pas eu là ces derniers temps. Il n'a pas pu s'aligner, il n'a pas pu rencontrer ses adversaires. Et on sait que c'est déstabilisant pour des sportifs qui ont besoin de se mesurer aux autres.
On va voir ce qu'il nous donne en termes de médaille de bronze. Et on lui souhaite bien évidemment. Mais 3 ans pour un tel champion, c'est long quand même jusqu'à Paris. Il a 32 ans, 3 ans pour se maintenir à haut niveau. C'est compliqué. Vous le voyez être à Paris, franchement ?
On l'a déjà vu là, hein, les 5 ans, il a arrêté 1 an, il a dû revenir, c'était compliqué. Il a pris le risque aussi de changer de méthode d'entraînement, d'entraîneur, de préparateur physique à quelques mois des Jeux. Donc c'est vrai que c'était un pari risqué. C'est un pari peut-être qui pourra payer à la longue, si toutefois il prend la décision de continuer. Mais cette décision évidemment lui appartient. Et puis, on verra déjà là comment il s'en sort à la fin de cette compétition, parce que ça peut aussi basculer mentalement si jamais il réussit des bons combats jusqu'à la fin de la compétition.
11 médailles pour l'instant, Madame la Ministre, pour le camp français en 7 jours de compétition. C'est quoi ? C'est un bon bilan ? C'est encourageant ?
J'allais dire j'ai apprécié beaucoup l'état d'esprit des jeunes, des outsiders, des challengers qu'on a vu quand même figurer à de bonnes places, décrocher des médailles qu'on n'attendait pas, notamment chez les filles, puisque sur les 11, il y a 8 médailles pour les filles. C'est assez remarquable. Et puis, des bonnes places entre la 4e et la 10e place, avec un état d'esprit très combatif de la part de beaucoup de jeunes. Donc voilà, moi c'est ce que je suivais, c'est ce que je leur avais dit aussi, c'était qu'il fallait saisir toutes les opportunités qui allaient se présenter à nous, parce que forcément, les favoris allaient être déstabilisés par le report des Jeux, par cette incertitude, par le manque de compétition. Et nous aussi, on en avait certains favoris. Il y en a qui ont bien réussi à confirmer, et puis d'autres un peu moins. Maintenant, voilà, il faut que ces médailles d'argent, puisqu'on voit, hein, on en a beaucoup là, des médailles d'argent, arrivent à se transformer en or pour Paris. Et puis que les places de finalistes arrivent à monter sur le podium. Peut-être qu'avec le fait que les Jeux soient chez nous, on va monter en puissance ces 3 prochaines années pour ça.
Ça fait 11 médailles pour l'instant. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur ces derniers jours en particulier ? La France est devenue complètement amoureuse de Clarisse, la reine des tatamis. On s'attache à elle, évidemment. Est-ce qu'elle vous a marqué par sa performance et sa personnalité aussi ?
Oui, surtout par sa capacité à se concentrer avant l'événement et puis à annoncer en fait ce qu'elle va faire. J'étais avec ses parents. Ils me disaient, à quelques heures encore de ses combats, elle leur a dit « Je reviendrai avec cette médaille d'or ». Et moi, pour avoir été sportive, je sais que ça, c'est une étape supplémentaire à passer pour des champions. On peut avoir l'ambition, on peut se concentrer et puis s'entraîner pour y arriver. Mais le dire avant de le faire, c'est vraiment la marque des très grands. Il y avait une fille qui faisait ça chez nous en natation, c'était Laure Manaudou. Et puis là, il y a Clarisse Abguénénou. Voilà, toute cette dynamique de l'équipe de France de judo féminine, où je suis sûre que ça va emmener aussi les garçons pour les années à venir. Et puis, je vous dis, des jeunes, que ce soit les 2 petits jeunes en natation qui ont fini entre la 4e et la 10e place, on espère que tout ça va emmener ces disciplines
pour Paris.
Pour Paris.
De voir la une de l'équipe ce matin avec ces femmes puissantes, tous ces sourires féminins en aviron, en judo, en escrime, ça vous fait plaisir ça, hein ?
Ça me fait très plaisir parce que c'est vrai qu'il est rare de voir des femmes à la une de notre quotidien sportif. Et puis, on a, c'est vrai, toujours l'impression qu'il faut confirmer pour avoir le droit d'être en une. Alors que, voilà, c'est un journal d'information et c'est bien qu'il relate l'information aussi bien pour les garçons que pour les femmes.
Roxana Maracineanu, je voudrais vous entendre sur le foot français, éliminé d'entrée. Quel échec ? Quel
moi,
échec
voulais,
sur l'ensemble du foot tricolore d'ailleurs, sur ces joueurs qui ont été appelés et pas libérés par les clubs, une fédération qui semble-t-il pas de pouvoir là-dessus. Comment on peut gérer ça ? On peut pas donner cette image, si ?
D'abord, je voulais saluer l'engagement de Gignac et de Thauvin parce qu'ils ont été remarquables dans leurs déclarations, dans leur comportement, dans leur manière de faire et de se remobiliser alors que ça démarrait mal, hein, parce que tout seul dans une équipe ou à 2 dans une équipe de 11, on peut pas s'en sortir si les autres sont pas là, c'est sûr. Les autres, les jeunes qui étaient là, bravo à eux aussi pour leur engagement. Mais c'est vrai qu'on attend plus et mieux, évidemment, du football français. On peut pas se permettre aux Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu en France, de ne pas avoir notre équipe de France performante, qu'on voit performer dans les compétitions de l'UEFA, de la FIFA. Donc avec Noël Le Graët aujourd'hui, On va faire des choses pour que les clubs se mobilisent.
Quoi ?
Il faut que ça rentre dans le programme de la FIFA. En fait, c'est tout simplement ça, pour que ces dates puissent être dans le calendrier de la FIFA. C'est eux qui organisent la compétition de football pour le compte du CIO. Donc, c'est à eux de sanctuariser ces dates par rapport aux clubs. Et on va engager ce chantier avec Noël Le Graët.
Madame la ministre, parlons du sport. Pour nous, les amateurs et les pratiquants, ce sport en général, qui a été très touché par la pandémie, qui a fait beaucoup de mal à ce monde-là aussi, les clubs, les salles de sport qui sont dans le rouge financièrement, en baisse vertigineuse en termes d'adhérents et de licenciés, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus aujourd'hui ? Vous les avez aidés depuis le départ, que faire de mieux ?
6 milliards d'euros nous avons débloqué pour le sport, aussi bien professionnel qu'amateur au total, c'est énorme. C'est du jamais vu en Europe et dans le monde, je pense, pour le sport. À la rentrée, nous aurons une mesure qui s'appelle le passeport, qui permettra à un enfant sur deux de bénéficier d'une réduction pour s'inscrire en club. Donc chacun recevra chez lui un courrier qu'il faudra faire valoir auprès de son association préférée, celle qu'on a choisie après avoir regardé toutes ces épreuves aux Jeux Olympiques.
De quel montant ?
50 euros pour l'État. C'est un montant... entre 100 millions et 250 millions d'euros, en fonction de comment l'enveloppe sera consommée. Le président de la République a annoncé qu'on ira jusqu'à épuiser cette aide. Et puis, avec des collectivités, des partenaires, des fédérations qui vont mettre au-delà de ces 50 euros pour qu'on puisse aussi avoir un minimum de reste à charge pour les familles les plus fragiles. C'est une allocation de rentrée sportive, comme l'allocation de rentrée scolaire, qu'on a envie de renouveler chaque année. Et donc, on espère que beaucoup de clubs vont se mobiliser pour aller chercher ces publics qui ne font pas suffisamment de sport et qui ont qui sont partis des clubs attirés par autre chose, et puis aussi déçus de ne pas pouvoir pratiquer avec leur association de cœur. Donc, on a envie que ça reparte. Une grande campagne de communication aussi pour relancer le sport pour tous au mois d'août, national. Et puis, je suis assez confiante parce que je pense que tout le monde a envie de retrouver ses copains dans l'association, dans le club du coin, et puis sa deuxième famille de cœur, puisque c'est ça, une association sportive, c'est une deuxième famille lorsqu'on sort de chez soi.
On a perdu beaucoup, beaucoup d'adhérents et de licenciés ?
On est à moins 10, moins 15% sur les territoires, et puis au niveau fédéral, avec des clubs qui ne sont pas licenciés et n'ont pas pris d'adhésion vu que les compétitions étaient arrêtées, on est plutôt à moins 30, le double. Mais moi je pense que avec la vaccination, j'encourage tout le monde à se faire vacciner, puisque le passeport sera obligatoire pour se réinscrire à partir de 12 ans, à partir du 30 septembre. Donc il faut vraiment aller se faire vacciner, les enfants aussi, pour qu'on puisse reprendre normalement et que les associations, le sport ne referme pas si jamais la situation se dégrade.
Les championnats professionnels vont reprendre, c'est déjà fait pour la Ligue 2, ça va être le cas pour le foot, pour la Ligue 1 très très vite, dans 8 jours, le rugby à venir et tous les autres. Est-ce qu'il faut avoir un pass sanitaire pour aller dans les tribunes ? Comment vous allez gérer tout ça ?
Oui, vous savez que le sport c'était déjà le cas, puisqu'au-delà de 1000 personnes, on devait présenter un pass sanitaire. C'est aujourd'hui le cas à partir de 50 personnes, et puis dès que la loi sera en vigueur à partir du 9 août, ce sera le cas dès la première personne qui passe la porte d'un stade ou d'une piscine pour aller pratiquer ou qui entre dans un club sportif à partir de l'âge de 12 ans.
Il y a des jauges dans les enceintes sportives ?
Il n'y a pas de jauge.
Il n'y a pas de jauge, hein ?
Non, il n'y a pas de jauge, sauf si le variant Delta circule beaucoup dans un endroit et que le préfet prend la décision de diminuer la jauge normale, mais pour le moment, si tout le monde se vaccine, si tout le monde a ce pass sanitaire, on espère que tout ça va évoluer positivement.
Bon, ramenez-nous des médailles de Tokyo. Je crois que vous partez ce week-end jusqu'au terme de la compétition, les Jeux Olympiques.
Dimanche, je vais rejoindre les sportifs et les entraîneurs.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Roxana Maracineanu, d'avoir été en direct ce matin sur RTL. Il est 7h55. Les pourquoi de l'été, Cyprien Signy arrive. À tout de suite.
Stéphane Carpentier.
RTL. RTL. Les pourquoi de l'été. Avec Cyprien
Signy. Oui, Cyprien qui répond aux questions estivales des petits et des grands avec une interrogation d'une auditrice qui colle à l'actualité en ce 30 juillet.
Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 37 ans et je voulais savoir pourquoi il y a des bouchons sur la route ?
Alors, il n'y en a pas toujours, heureusement. Hein, mais c'est vrai qu'en période de chassé-croisée, on a beau le répéter tous les ans, on a beau le savoir, ça ne loupe pas. On a droit au fameux bison futé voie rouge. En fait, un bouchon, c'est d'abord parce que le volume de circulation est supérieur à la capacité de la route. En gros, il y a trop de voitures en même temps sur le même espace et donc ça freine à chaque goulot d'étranglement. Vous savez, quand les routes se rejoignent, quand il y a une voie en moins. Autre possibilité, les coups de frein, qui par effet de domino font freiner tout le monde. Et puis, il y a aussi les accidents, les travaux. Mais pour en revenir à nos fameux chassés-croisés des juilletistes et des aoussiens, et à nos week-ends d'août congestionnés, à ce bazar annoncé qui se vérifie tous les ans, c'est tout simplement la faute à l'organisation de notre société. Oui, en gros, on ne peut pas vraiment faire autrement, puisque les dates des grandes vacances sont sensiblement les mêmes pour toutes les familles. Les locations se font généralement du samedi au samedi, et puis la première quinzaine d'août, eh ben c'est celle où toute la société française fait relâche. Certaines entreprises sont même carrément fermées à cette période, donc tout le monde prend ses vacances en même temps et tout le monde part en même temps. Le bouchon devient donc inévitable, d'autant qu'on n'a pas vraiment d'alternative. En famille, un trajet en train coûte plus cher qu'en voiture. Et puis avec de gros bagages, le train, c'est moins pratique. Et puis de toute façon, ces week-ends-là, les trains, eh ben ils sont déjà pleins. Après, avec le temps et l'habitude, ces journées de bouchon font finalement aussi un peu partie des vacances. Elles sont intégrées psychologiquement par les voyageurs. Preuve que finalement, les choses ne sont pas si mal faites. Même si pour le coup, c'est vrai que les bouchons, quand même, on s'en passerait bien.
C'est pas faux. Les pourquoi de l'été, Cyprien Signy, RTL à vos côtés, bien sûr, sur les routes dès les premières difficultés. Ce sera très chargé ce week-end. Demain, c'est noir dans le sens des départs. Donc, soyez prudents. L'avantage, Anthony, c'est qu'on va pas crever de chaud au volant, globalement.
Et que le ciel sera très chargé, lui aussi, avec beaucoup de nuages et du vent. C'est une perturbation qui traverse le pays aujourd'hui. Elle nous vient des îles britanniques. Et elle apportera donc des nuages et du vent ce matin entre la Gironde, le centre, l'île de France, les frontières du Nord. Puis dans l'après-midi, elle poussera jusqu'en Lorraine, jusqu'au Morvan, jusqu'au Limousin et jusqu'aux Landes avec donc quelques gouttes et surtout de fortes rafales de vent jusqu'à 90 km/h près des côtes de la Manche, 50 à 70 dans toutes les terres de la moitié nord, avant son passage quelques éclaircies qui seront d'ailleurs là toute la journée en Alsace et puis après son passage entre 2 ou 3 éclaircies, là encore des averses avec donc ce vent notable près de la Manche. À l'avant de la perturbation, on a quelques orages aussi ce matin dans le sud-ouest et ils vont se concentrer en cours d'après-midi entre le massif centrale et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Attention, ils seront parfois violents et accompagnés de grêle. Et puis comme toujours, autour de la Méditerranée, c'est le soleil, plein soleil pour toute la journée. Les températures, elles seront encore un peu fraîches à l'ouest, mais deux saisons, voire un peu plus chaudes que la normale dans l'est, avec 20 degrés à Brest, 22 à Lille, 24 à Paris et Bordeaux, 27 à Lyon, 30 à Marseille et 32 à Bastia.
Profitez bien dans le sud-est. Merci Anthony, très bon réveil. Où que vous soyez, vous êtes les bienvenus, c'est RTL. Il est 8h du matin.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et à 8h, l'actualité, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et donc, pas de troisième titre olympique cette année pour Teddy Riner.
La journée commence mal pour les Français. Le judoka a été éliminé en quart de finale. Il se bat désormais pour la médaille de bronze. Dans le journal également, quand les automobilistes prennent la route pour une poubelle, le début des vacances d'Emmanuel Macron sous le signe de l'épidémie, le prix des semelles qui s'envolent et puis des frites à prix d'or, record du monde. À New York.
RTL à Tokyo.
La nuit a été cauchemardesque pour la délégation française au Japon avec d'abord la défaite du double champion olympique de judo, Teddy Riner, battu en quart de finale. Il passe à côté d'un troisième titre. C'est un rêve qui s'envole, Isabelle Langer.
Ah oui, il rêvait d'entrer dans la légende ici au pays du judo, dans ce Nippon Budokan, temple des arts martiaux à deux pas du palais impérial. Teddy Riner voulait devenir le plus grand des poids lourds avec 3 médailles d'or olympiques, rejoindre dans la légende de son sport le japonais Tadahira Nomura, le seul à avoir réussi une telle performance dans la catégorie des moins de 60 kilos. Il s'était imposé aux Jeux en 96, 2000 et 2004. On savait que cette quête ultime n'allait pas être simple pour Riner, notamment quand nous avons découvert dans un documentaire la semaine dernière qu'il s'était blessé gravement au genou il y a 5 mois. Aujourd'hui, cette course contre la montre qu'il a dû faire pour être prêt physiquement, mais aussi des compétitions qu'il n'a pu disputer pour s'entraîner, ont certainement penché dans la balance. Le colosse a chuté en quart de finale face au numéro 1 mondial, le russe Bachaïev, qui l'a emporté sur une petite erreur technique du français dans le golden score. Mais la compétition n'est pas terminée pour Riner, qui peut encore viser une médaille de bronze. Il lui faut donc rapidement digérer cet échec, se remobiliser. Il y a 2 combats disputés pour monter sur le podium. Le premier, celui des repêchages contre le Brésilien Da Silva, 3e des Jeux de Rio en 2016.
Et on suivra ça avec vous, Isabelle Langer. On retrouve maintenant Nicolas Burnand. On espérait une belle moisson de médailles pour la France aujourd'hui. On l'a vu en judo, mais c'est vrai aussi pour les autres disciplines. Pour l'instant, ça commence très mal.
Ah oui, très mal. Zéro pointé pour le BMX français. Ils étaient pourtant quatre tricolores en finale. Sylvain André termine au pied du podium, quatrième. Romain Maillot est sixième. Joris Daudet a chuté dans le dernier virage. Il n'a pas terminé la course. Septième place pour Axel Etienne chez les femmes. 23 ans pour ses premiers jeux. À sommet, les épéistes français. L'équipe homme s'incline en quart contre le Japon d'une toute petite touche, 45 à 44. La France était championne olympique depuis 2004. En natation, pas de finale du 100 mètres papillon pour Mehdi Metella. Pas de médaille pour Léa Labrousse en trampoline, classée 12e de la finale. Une bonne nouvelle quand même avec le rugby à 7. Victoire facile des Bleus, 31-0 contre le Canada. Elles affronteront la Chine à midi en quart de finale. Enfin, le hand, match en cours. L'équipe masculine affronte l'Espagne. Quatrième rencontre de poule. Les Français mènent 18 à 12.
Et ben voilà, il reste de l'espoir. Merci Nicolas Burnand, envoyé spécial à Tokyo pour RTL.
Et évidemment, on suit toute cette actualité olympique sur notre antenne tout au long de cette journée. Et on fait le bilan ce soir sur RTL, 18h30, 19h dans On refait les Jeux. En attendant, il est 8h03, vous nous écoutez peut-être sur la route. Ce matin, c'est le début d'un grand week-end de chassé-croisé.
Ils ont futé, hisse le drapeau noir demain, des automobilistes nombreux et qui prennent encore trop souvent la route pour une poubelle. Selon une étude que RTL vous dévoile ce matin, plus d'un Français sur quatre reconnaît jeter des déchets par la fenêtre sur l'autoroute. Ça n'est pas mieux sur les aires de repos et vous l'avez constaté sur l'A7, Frédéric Perruche.
Il y a pourtant des cendriers et des poubelles à proximité sur cette immense aire de service, mais Christelle et Patrick, fatigués peut-être par des heures de route, jettent négligemment leurs mégots par terre.
Moi, je viens de l'acheter, à l'instant.
D'être prise en flagrant délit.
En flagrant délit, ouais. Mais pourtant, on a un cendrier de poche, hein, puis bon, il y a des cendriers ici.
C'est si on voit déjà des mégots par terre, on le jette à côté du mégot.
Ouais, c'est vrai que voilà. Ça joue, quoi. On est quand même conscient de ce qu'on fait, quoi, hein, et que c'est pas très correct.
Juste après la pause déjeuner, les poubelles sont bien pleines, mais on oublie vite les gestes de base.
Je suis désolée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas trié.
Qu'est-ce que vous avez jeté ?
Une canette et plus les papiers. Et deux, je pouvais shooter les papiers parce que comme on a fait des sandwichs et tout.
Mais vous avez pas trié ?
Franchement, j'ai même pas pensé tellement, ça y est, on est fatigué. En plus, on a pris la route depuis 4h du matin. Là, j'ai même pas pensé à faire ça.
Il y a pourtant deux espaces dédiés au tri sélectif, très visibles au milieu de l'aire de repos, mais en 2 heures de temps, seules 2 personnes les ont utilisés.
J'ai jeté du plastique, des sandwichs. Et en règle générale, oui, on fait attention au tri sélectif. Puis ça fait beaucoup de déchets en plus, donc il vaut mieux les trier pour que ça soit retraité et puis réutilisé.
Et si besoin, l'aire de Saint-Rambert-Valbon propose des petits jeux très utiles dans son espace environnement.
Le reportage signé Frédéric Perruche dans la vallée du Rhône pour RTL. Et déjà, quelques premiers ralentissements ce matin. On va faire un point complet sur vos conditions de circulation juste après ce journal.
Début des vacances pour Emmanuel Macron, mais le chef de l'État Alexandre veut montrer qu'il reste mobilisé.
Il vient de rentrer d'un déplacement en Polynésie française. Avec son épouse, ils vont prendre leur quartier d'été ce week-end dans le Var, au fort de Brégançon, William Galibert.
Oui, Emmanuel Macron veut montrer qu'il n'y a jamais vraiment de vacances quand on est président. Alors il y aura bien le soleil, la mer et même la piscine que le président a fait installer au début de son mandat. Il y aura aussi de la diplomatie, une visioconférence sur l'avenir du Liban mercredi prochain. Et qui sait, peut-être des rencontres au sommet. Vladimir Poutine et Angela Merkel sont déjà passés dans le Var les étés précédents. Il y aura aussi forcément la situation sanitaire au programme avec des conseils de défense déjà programmés. Et puis des cérémonies comme la commémoration du débarquement à Bormes-les-Mimosas, cérémonie à laquelle le chef de l'État a l'habitude d'assister. Mais Brégançon reste quand même aussi synonyme de détente. Pour s'en persuader, il faut se souvenir de l'été dernier quand des photos d'Emmanuel Macron chevauchant un jet-ski avaient été publiées.
William Galibert du service politique de RTL. La quatrième vague de l'épidémie s'intensifie. On est repassé hier au-dessus des 1000 patients Covid dans les services de soins intensifs. Plus de 25 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Les autorités imposent désormais le retour du masque à l'extérieur, en Haute-Savoie ou encore en Loire-Atlantique. Mais c'est en Outre-mer que la situation est la plus inquiétante face à la saturation des services de santé. 3 premiers patients hospitalisés à Fort-de-France doivent être transférés demain vers Paris. La Martinique qui est reconfinée à partir de ce vendredi soir et pour 3 semaines. L'épidémie flambe aussi sur l'île de la Réunion, reconfinée partiellement à partir de ce week-end pour 2 semaines. Les habitants d'outre-mer qui sont beaucoup moins vaccinés que ceux de la métropole.
8h06, vous restez bien là, la suite du journal c'est dans un instant avec Israël et une 3e dose pour les plus de 60 ans. A tout de suite. Voilà.
RTL Matin.
À 8h08, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Une quatrième vague de l'épidémie à l'échelle mondiale. Israël lance une campagne de vaccination complémentaire.
Le nombre de cas augmente même dans ce pays le plus vacciné de la planète. Alors les autorités veulent renforcer encore la couverture vaccinale, Stéphane Amar.
Dès dimanche prochain, les plus de 60 ans pourront reprendre le chemin des centres de vaccination pour recevoir une troisième dose. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé la mesure hier soir en expliquant que l'efficacité du vaccin baissait au fil du temps. Or, en Israël, la campagne de vaccination a débuté très tôt, dès la fin du mois de décembre dernier. Avec cette troisième dose, Israël tente de freiner une reprise inquiétante de l'épidémie. Dans un pays où plus de 60% de la population a reçu les deux doses du vaccin et où l'on vaccine dès l'âge de 12 ans, le taux de contamination a retrouvé le niveau du printemps dernier, essentiellement à cause du variant Delta. En revanche, les cas graves restent rares et concernent surtout les non-vaccinés. Symboliquement, le premier Israélien à recevoir la troisième dose sera le nouveau président de l'État, Yitzhak Herzog, qui vient de fêter ses 61 ans.
La correspondance de Stéphane Amar pour RTL. L'économie française se remet progressivement de la crise sanitaire. Selon une première estimation de l'INSEE, ce matin, le PIB rebondit de 0,9%. C'est un petit peu mieux que prévu.
Alors que le prix des chaussures va augmenter dans les prochains mois.
Avec la pénurie des matières premières, la reprise de l'activité est difficile, notamment pour la filière du caoutchouc. Le précieux latex de l'EVA se fait rare. Son prix est en hausse de 25%. Illustration dans un magasin de randonnée à Lille, Antoine Decaire.
Et plus les chaussures sont grosses, plus elles sont rapidement confrontées à cette pénurie. Dans son magasin dédié à la randonnée, Emmanuel Godin est donc concerné.
Là, on a une chaussure basse. Toute la semelle extérieure, c'est un caoutchouc. Et après, il y a tout ce qu'on appelle l'intercalaire, c'est également du caoutchouc. Donc toute la partie basse de la chaussure est complètement touchée par cette pénurie.
Et alors que la demande de chaussures de randonnée a explosé cette année, il n'a pas pu recevoir toutes ses commandes.
On a une partie de nos fournisseurs, peut-être 20%, qui ne nous ont pas livré. Il y a des paires de chaussures qui devaient arriver en juillet, qui nous sont annoncées fin novembre, mais ce sera peut-être encore reculé. C'est vrai qu'en juillet, là, on loupe quand même beaucoup de ventes.
Et si dans les magasins de chaussures traditionnels, les stocks sont toujours fournis pour la saison en cours, c'est pour la collection printemps-été 2022 que la pénurie se fait déjà sentir. C'est le cas pour Pierre, le manager de la Botte Chantilly à Avelin.
Nos fournisseurs, parce que là on est en train d'acheter pour l'été prochain, nous ont dit qu'il y aurait une montée des prix des semelles, donc forcément une montée des prix de toutes les chaussures. Que ça soit fait en Europe ou en Chine, ça va se répercuter aussi sur les consommateurs finaux.
Car il estime qu'avec cette pénurie de caoutchouc, chaque paire achetée au fournisseur lui coûtera 10 à 15 euros de plus.
Antoine Decarne pour RTL.
Et puis vous nous avez promis une dégustation de luxe avec les frites les plus chères du monde.
Direction un restaurant de New York, $200 l'assiette pour les pommes de terre. Je vous le promets, les plus bling bling de la planète, Karine Auten.
Alors c'est le chef Joey Calderon, le directeur créatif du restaurant depuis 35 ans, qui a inventé la recette et je vous préviens, ce n'est pas léger léger. Il sélectionne d'abord une pomme de terre haut de gamme du pays, puis il la fait blanchir dans du champagne Dom Pérignon et dans du vinaigre de champagne. Il la fait frire ensuite dans de la graisse d'oie française deux fois. Tout cela est censé rendre la frite plus croustillante dehors et plus moelleuse dedans. Elles sont ensuite assaisonnées de sel à la truffe et d'huile de truffe noire, puis recouverte de pecorino râpé à la truffe et tout simplement, vous l'aurez peut-être deviné, de truffes d'été tranchées finement. Le tout est accompagné d'une sauce mornée aux trois fromages, gruyère, raclette et fromage truffé et c'est servi sur une assiette de cristal baccarat et recouvert de poussière d'or alimentaire 23 carats. Après le burger le plus cher, le sundae le plus cher, le restaurant mi-diner, mi-salon de thé pop art avait voulu mettre un peu d'excentricité dans l'air après 18 mois de fatigue due à la pandémie. Alors, impossible de savoir le nombre exact de calories de ce nouveau record, mais cela a fait tellement de bruit que le restaurant de l'Upper East Side affirme avoir 12 semaines de liste d'attente de clients qui veulent venir les goûter.
Non.
Bon, faut aimer la truffe quand même. Hein.
Ouais, quand même, pas mal.
Moi, je préfère les frites.
Merci à Karine Auten aux États-Unis pour RT. Il aime les frites, Alexandre.
Ouais.
Les vrais, les Belges. Ouais, les vrais, quoi. À tout à l'heure, 9h pour toute l'actualité. L'actualité, vous le savez, ce sont les. Programme chargé ce week-end. On va faire un premier point avec Louis Augris. Ça va pour l'instant. Hein.
Oui, pour le moment, c'est encore assez fluide sur vos routes. C'est surtout à partir de cet après-midi que ça va se compliquer. Bison Futé vous conseille d'éviter de quitter ou de regagner les grandes métropoles entre 14 et 19h. Et si vous partez d'Île-de-France en direction de vos vacances, il faudra essayer de le faire avant midi pour éviter au maximum les ralentissements. En Île-de-France, d'ailleurs, le trafic est déjà un peu ralenti sur la 86. 10 où on signale deux accidents. Le premier au niveau de Nogent. Faites attention, la voie de droite est fermée. Et prudence si vous roulez entre Rungis et Fresnes. Là aussi, un accident qui implique deux véhicules légers provoque quelques ralentissements. Sur le reste du pays, quelques petits événements à vous signaler quand même si ça va pour le moment. Dans le sud-est, le trafic est dense sur la 57 entre Toulon et le Canet des Morts. N'hésitez pas à garder un pied sur le frein. Et puis, sur la 81, si vous vous dirigez vers la Bretagne pour vos vacances, au kilomètre 210 après la sortie 1, direction Sablé, un véhicule est arrêté sur le bord des voies. Il faudra adapter votre conduite dans ce secteur.
Patience et prudence, merci.
.fr. Les chemins de Saint-Jacques sur RTL.
Comme chaque vendredi cet été, on vous emmène donc sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle après Puy-en-Velay et Saugues, direction aujourd'hui Conques dans l'Aveyron. C'est l'un des plus beaux villages de notre pays. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
C'est la découverte d'un patrimoine exceptionnel que vous nous proposez, un voyage dans le temps au cœur d'une cité médiévale miraculeusement conservée. Conques, c'est un magnifique cadeau pour les marcheurs. Ils sont à 22 000 à faire l'étape ici chaque année.
En fermant les yeux et avec un peu d'imagination, les marcheurs peuvent en arrivant à Conques se laisser porter par le chant des martinets et plonger alors dans les couloirs du temps, à la fin du 8e siècle, lorsque les moines s'installèrent ici.
Une ermite avait choisi ce lieu en forme de creux, en forme de coquille. Conques, ça veut dire la coquille, le creux dans la montagne. Et il n'y avait que les animaux sauvages et le chant mélodieux des oiseaux. Et on voit qu'ils y sont encore, hein, les oiseaux, c'est les descendants. Ce sont les martinets, c'est eux qui nous annoncent le printemps en général.
Anne Romiguière est guide conférencière.
Alors là, nous sommes au cœur presque névralgique du village, puisqu'on est derrière l'abbatiale. On voit les rues médiévales et on voit aussi par où passent les pèlerins de Saint-Jacques quand ils arrivent à Conques. Donc ils ont cette vue un peu spectaculaire à la dernière minute.
Le village de Conques, majestueux, apparaît soudain comme une délivrance après des heures de marche parfois difficiles.
On a dit petit village de trolls, mais c'est vraiment magnifique. C'est à l'image de tout ce qu'on a traversé. Ça représente un tout, une finalité de ce chemin, je dirais.
Certains marcheurs sont des habitués. Catherine revient inlassablement sur les chemins depuis 18 ans.
Alors, au début, c'était pour sauver mon couple. J'étais partie avec mon ex-mari. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas sauvé mon couple. Et là, depuis, j'arrive pas à quitter le chemin. Il y a une ambiance, il y a quelque chose de fraternel et de convivial sur chemin que je ne trouve pas dans ma vie de tous les jours. Voilà une bienveillance les uns pour les autres qui fait du bien en fait.
Voici les cloches de l'abbatiale Sainte-Foy. Elles résonnent longuement chaque jour pour annoncer les deux offices religieux. La communauté des frères prémontrés donne ainsi vie à cet impressionnant édifice, véritable chef-d'œuvre de l'architecture romane. L'abbatiale possède aussi des vitraux réalisés par le célèbre peintre aveyronnais Pierre Soulages. Michel, un touriste belge, apprécie ce travail.
J'ai juste en face de moi justement un vitrail qui est dans l'ombre et puis l'autre à côté dans la lumière. Il n'y a pas de couleur et pourtant ces lignes, ces traits qui zigzaguent ou qui verticalisent, ça inspire.
Au pied de l'abbatiale, dans une salle aux allures de crypte, Conques possède un joyau unique au monde. La salle du trésor réunit une extraordinaire collection de reliquaires dont beaucoup datent de l'époque carolingienne, comme l'œuvre maîtresse, la statue de Sainte-Foy.
Elle a été confectionnée suite à l'arrivée des ossements de Sainte-Foy au 9e siècle. Donc elle a à peu près 1000 ans de décor, puisqu'on compte à peu près 300 pierres précieuses ou semi-précieuses. Elle est majoritairement faite d'or, assise sur son trône.
Je vous propose à présent un court détour dans les rues du village. Elles sont sillonnées chaque année par 500 000 touristes, simples promeneurs venus admirer les vieilles pierres.
Je me limite aux marches d'Anconque en tant que touriste. Je le connaissais étant jeune, mais je l'avais complètement oublié. Et je suis très heureux de redécouvrir. Superbe.
Ce couple de Toulousains a aussi profité de la gastronomie aveyronnaise.
Le farsou, farsou aveyronnais, avec à base d'ortie.
Et ensuite, on avait un genre de fricot à partir de bœuf. Et c'était excellent, servi avec de l'aligot. Très facile à digérer.
Pour les marcheurs, c'est la descente escarpée sur Conques qu'il faut d'abord digérer. Dans les murs de l'ancienne abbaye, 80 personnes sont hébergées ce jour-là. Qu'ils soient croyants ou pas, ils sont accueillis par des salariés et des bénévoles comme Jean-François, un hospitalier québécois.
Vous avez fait bonne route ?
Oui,
oui. Oh, vous avez une réservation ici à Conques ?
Oui, oui, oui.
Bon, ben, vous êtes au bon endroit, donc en effet, continuez. Vous pouvez déposer vos bâtons, enlever vos sacs à dos ici, reposez-vous un peu.
Ah, merci.
Le frère Cyril est le prieur de la communauté des moines de Conques et pour souligner la richesse de l'échange avec le public à l'accueil Sainte-Foy, il s'amuse à parler de l'existence d'un virus beaucoup plus sympathique que celui qui occupe nos esprits depuis quelque temps.
Ah oui, le virus du chemin. Quand vous avez le virus du chemin, vous ouvrez totalement votre univers à l'accueil de la différence.
d'amour de l'autre, quel qu'il soit. On revoit des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de marcher sur un chemin qui mène quelque part. Et alors on le fait aussi en famille. Là, vous voyez, une famille vient d'arriver et c'est aussi l'occasion de plein de rencontres entre des gens très différents.
Enfin, chaque soir, les marcheurs sont invités à découvrir le fabuleux tympan de l'abbatiale. Ce spectacle son et lumière est commenté par le frère Jean Daniel qui offre ensuite au public un concert d'orgue au programme très surprenant.
Je joue tout un programme des années 60, mêlé à quelques mélodies de chants grégoriens ou de mélodies de Thésée. Ils sont étonnés, ils aiment entendre des choses qu'ils connaissent.
Les portes du pénitencier, il y a une signification ou pas du tout?
Alors, en fait, Conques est porteur de libération. Sainte-Foy elle-même, elle était martyr, mais elle a, dans les miracles qu'elle a opérés, elle a libéré des prisonniers.
Johnny accompagne ainsi un peu les marcheurs, dont certains comme Laura sont encore très loin de l'arrivée.
Aujourd'hui, je viens de Fonteil, c'est avant Golignac, et je ne sais pas jusqu'où je vais.
Ça peut être jusqu'à Saint-Jacques ?
Oui, c'est possible, oui, oui.
Sur son chemin, elle passera forcément à Laroumieux dans le Gers. Ce sera notre prochaine étape dans une semaine. Avec Patrick Tegereau, il nous fera découvrir là aussi l'un des plus beaux villages de France, chargé d'histoire et de légendes sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Sur les chemins de Compostelle dans l'Aveyron ce matin. Avant donc la suite, c'est chaque vendredi dans RTL Matin cet été. Merci à vous Patrick Hisson. Dans un instant, nous prenons la route. C'est un gros week-end qui s'annonce. Le fameux chassé croisé entre les vacanciers de juillet et du mois d'août. C'est Anne Lavaux qui nous rejoint en direct, déléguée générale de l'association Prévention Routière. On a plein de conseils pour vous. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. .fr. Stéphane Carpentier. RTL Matin jusqu'à 9h15.
Merci de votre fidélité. 8h21 sur RTL. On va s'arrêter ensemble ce matin sur ce gros week-end qui arrive sur les routes. C'est le traditionnel passage de témoins entre ceux qui rentrent et ceux qui ont la chance de partir en vacances. Demain, samedi, bison futé. N'hésite pas, c'est noir sur les grands axes de tout le territoire pour les départs. Bonjour Anne Lavaux.
Bonjour.
Merci d'être connecté en direct, délégué général de l'association Prévention Routière. Week-end chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. D'ailleurs, c'est encore et toujours le gros week-end de l'année.
Oui, ça fait partie des gros week-ends de l'année. Alors, c'est pas le seul, hein. Vous savez, il y a quelques ponts au mois de mai ou au mois de novembre qui sont très chargés sur les routes. Mais ce week-end, ça va être noir et ça, c'est sûr.
Week-end que vous craignez particulièrement. Hein. Dites-nous pourquoi c'est le week-end de tous les dangers. Moi, je réfléchis comme ça. Si c'est chargé, ça veut dire beaucoup de bouchons, donc moins de vitesse. Ou alors, je fais fausse route.
En fait, vous savez, conduire, c'est une des tâches les plus stressantes. Il faut prendre des décisions toutes les 5 secondes. C'est vraiment une activité très complexe, beaucoup plus complexe qu'anodine, comme on a tendance à le penser. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, on va avoir une concentration de stress sur les routes. Le stress de ceux qui reviennent de vacances parce qu'il va falloir recommencer à travailler. Le stress de ceux qui partent parce qu'ils ont une année un peu compliquée quand même derrière eux et que c'est leur premier jour de vacances. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est faire baisser ce stress de manière à ce qu'il y ait des bouchons ou pas de bouchons. On n'est pas les mauvais réflexes lorsqu'on est au volant.
Ils sont nombreux, ces Français, à vouloir s'évader. On peut bien le comprendre hein, après tout ce qu'on vit. C'est pas ça le risque, justement, que les automobilistes soient pressés d'arriver au bord de l'eau ou à la campagne?
Oui, alors c'est vrai, on est toujours pressé et ça rajoute au stress. Et donc c'est là aussi qu'il faut anticiper ces déplacements, ces trajets. On sait qu'on va faire des trajets qui sont longs, beaucoup plus longs que les trajets du quotidien. Et donc ça veut dire qu'il faut mettre tous les atouts de son côté. Et tous les atouts, c'est effectivement anticiper en préparant le véhicule, en n'oubliant rien. Donc on se fait une petite liste, hein. On pense bien à son permis de conduire, à la carte grise, à l'attestation d'assurance et que sais-je. On pense aussi à occuper les enfants quand ils seront dans la voiture. On installe tout le monde confortablement. Et puis surtout, le maître mot, c'est pour se déstresser, il faut faire des pauses. Mmh. On sait que ça va être long, on sait qu'on va loin, et donc cette fameuse pause toutes les 2 heures, au minimum 20 minutes, elle s'impose encore plus que d'habitude.
Cette année et demie particulière de pandémie avec les confinements, les déconfinements, Anne Lavaux, est-ce que ça a modifié nos façons de faire, de conduire, de nous déplacer?
Alors, au quotidien, oui, ça c'est clair. Pendant les vacances, c'est un peu plus compliqué, mais au quotidien, en mai 2020, les Français nous avaient dit qu'ils marcheraient plus, qu'ils feraient plus de vélo et qu'ils prendraient davantage leur voiture pour les trajets du quotidien. On a reposé la même question en juin 2021. Eh bien, ils confirment tout ça et je pense que ça se voit quand on est, en tout cas, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. En ce qui concerne la période d'été, la période estivale, eh bien, les tendances en 2020 comme en 2021, c'est que les Français passent davantage leurs vacances dans l'Hexagone, oui. Et qu'ils considèrent toujours que leur voiture fait partie un peu des gestes barrières. Quand on est dans sa voiture, on est un peu dans le prolongement de chez soi et on se sent davantage en sécurité que lorsque l'on prend les transports en commun, le train par exemple. Donc oui, il va y avoir davantage de voitures sur les routes de France aujourd'hui, sur les autoroutes et sur le réseau secondaire. Et si je peux revenir justement sur cette question de pause qui est vraiment essentielle, c'est que sur l'autoroute, on a fait une étude sur l'autoroute, les Français font des pauses. Parce que très régulièrement, vous avez des aires qui vous appellent à la pause. Vous vous dites, ah bah oui, tiens, il y a une aire, puis il y en a une autre 20 km plus loin, etc. Vous faites les pauses. Quand vous faites ce même trajet un peu long sur le réseau secondaire, vous n'avez pas ces rappels à l'esprit qu'il faut faire des pauses parce que vous avez moins d'air de repos, vous avez moins d'air de station-service. Et donc, il faut que vous les aménagiez vous-même. Et ça, c'est vraiment très important. D'autant qu'on a quand même 87% des Français, on va dire la totalité, qui disent que ces pauses leur font du bien. C'est vraiment un des conseils de prévention routière qui est important pour nous parce que l'efficacité, elle est ressentie immédiatement. Souvent, on passe des conseils et les gens n'en ont pas le ressenti, hein, par exemple sur la vitesse. Mais sur la pause, ils sont 88% à nous dire qu'après, ils sont plus vigilants, plus attentifs, qu'ils sont détendus, qu'ils se sentent revigorés, requinqués. Donc faites des pauses toutes les deux heures et ne laissez pas votre GPS quand vous l'installez en début de trajet, vous indiquez votre heure d'arrivée. Allez, rajoutez une heure, comme ça vous êtes tranquille, vous pourrez faire toutes les pauses que vous voulez.
Ça c'est bien de le préciser, la pause toutes les deux heures, au moins 20 minutes. C'est le conseil du matin de Anne Lavaux qui nous a accompagnés. Merci à vous, délégué général de l'association Prévention Routière. Grande prudence à vous tous à l'occasion de ce grand week-end, bien chargé sur les routes. Demain, c'est noir dans le sens des départs, on le rappelle. Prudence, prudence. Vous restez là dans un instant, les grosses têtes et la météo de votre journée. À tout de suite.
Passez une bonne matinée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Indispensable pour bien démarrer la journée, nos grosses têtes, cet après-midi 15h30, avec bien sûr Laurent Ruquier. Ce sont les temps forts de la saison avec la bio de Riou.
Maintenant, les auditeurs finissent par connaître Yoann Riou, mais quand même, il faut vous expliquer que c'est le seul journaliste sportif...
qui ressemble à un ballon.
C'est la vérité.
Non, qui commente un match à la télévision sans avoir les images du match. Parce que... Ah, bah, ah ça, vous ne saviez pas.
Hein. Enfin, non. C'est les téléspectateurs qui n'ont pas les images.
Et lui, non, pas, ah oui, lui, là,
lui il les a.
Ah,
quand même.
Ah bah oui, c'est oui. Lui,
c'est bien qu'il y ait une gueule de cristal, mais il n'est pas médium. Hein.
Non, mais il n'est même pas dans le stade. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'équipe TV n'a pas les images, les droits des images, ils lui ont mis un téléviseur et ils filment Yoann Riou en train de regarder un téléviseur. Alors, le téléviseur est de dos.
Il remplit tous les
hélas, pour les téléspectateurs, le téléviseur est de dos et Yoann Riou est de face.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, vivement cet après-midi, c'est 15h30, 18h et en podcast sur votre appli. 8h29, nous sommes vendredi, quel est le menu dans le ciel, Anthony, s'il vous plaît?
Eh bien, j'ai envie de vous faire rêver ce matin, Stéphane, il est 8h29 et il fait certes seulement 15 degrés à Lille, 17 à Paris, mais il fait déjà actuellement 21 degrés à Perpignan, 24 à Nice et à Marseille et 27 degrés sur l'île Rousse en Corse. Voilà, voilà. C'était quelques secondes de rêve parce que sinon, le programme météo du jour, c'est encore un temps mitigé et changeant avec une perturbation qui aborde le pays par l'ouest qui va le traverser toute la journée. On retrouvera ce matin surtout des nuages, du vent entre la Gironde, le centre, l'Île-de-France et les Hauts-de-France avec quelques gouttes ici ou là. Avant le passage de cette perturbation, il y aura des éclaircies entre la Lorraine, la Bourgogne et surtout en Alsace qui conservera le soleil toute la journée. Et puis après le passage de la perturbation, quelques averses vont revenir par la Manche, mais surtout retenez le très net renforcement du vent jusqu'à 90 km/h près de la Manche, 50 à 70 dans les terres. Et puis attention aussi à ces orages qui vont persister toute la journée. journée sur l'Auvergne-Rhône-Alpes remontant jusqu'au Jura. Il y a quelques averses orageuses aussi sur les Bouches-du-Rhône actuellement, mais c'est bel et bien le soleil qui va dominer aussi dans le sud-est, en tout cas près de la Méditerranée, toute la journée. Les températures en cours d'après-midi, elles seront toujours fraîches à l'ouest, deux saisons à l'est, avec 19 seulement à Cherbourg, 20 à Brest, 22 à Lille, 24 à Paris, Bordeaux et Toulouse, 25 à Reims, 28 à Grenoble et pour Lyon également, 29 à Strasbourg, 30 à Marseille et 32 à Bastia en Corse.
32 en Corse et 19 à Cherbourg. Il y a un problème toujours. 8h30.
RTL Matin.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Hortense Crépin pour les essentiels de l'actualité de ce vendredi.
La désillusion à Tokyo pour Teddy Riner. Il voulait y croire, nous voulions y croire, mais le double médaillé olympique a été sorti cette nuit en quart de finale par le numéro 1 mondial, le russe Batchaïev. Il ne peut désormais plus rêver que d'une médaille de bronze. Gros, gros coup dur donc pour la délégation française, pour le judo et pour son président, Stéphane Nomis.
Oui, c'est très, très dur. Hein. Il était venu que pour l'or de perdre en quart de finale contre le numéro 1 mondial et champion du monde en titre, c'est, mais voilà, ça atténue un peu. Il perd pas contre n'importe qui. Au Golden Score, voilà, mais il faut être au rendez-vous et t'as pas le droit à la moindre erreur. Il a fait une toute petite erreur et qui lui coûte cher, quoi. Maintenant, j'espère qu'il va aller chercher le bronze, qu'il va se battre, qu'il va se remobiliser. C'est une médaille de plus aux Jeux Olympiques. Il n'y en a pas beaucoup qui ont autant de médailles, donc j'espère qu'il va aller la chercher.
Stéphane Nomis, président de la Fédération Française de Judo, avec Isabelle Langer, que vous retrouverez à 18h30 dans Refait les Jeux, présenté par Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. D'autres déceptions françaises aussi. En escrime, l'épée par équipe homme, championne olympique depuis 2004, s'incline en quart contre le Japon. Aucune médaille en BMX, malgré trois grosses chances françaises. Et handball, les Bleus affrontent en ce moment l'Espagne pour leur quatrième match de poule. Le score est pour le moment de 30 à 23 pour les Bleus. La France compte donc pour le moment 11 médailles au classement. Il faut que ces médailles d'argent arrivent à se transformer en or en 2024 et que les places de finalistes montent sur le podium, déclarait tout à l'heure sur RTL Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des sports. Table sur la mise en place à la rentrée du pass sport pour redynamiser les clubs. Avec la pandémie, certains ont perdu jusqu'à 30% d'adhérents. Dans le reste de l'actualité, début du plus gros week-end de départ en vacances. C'est orange sur les routes dans les deux sens. Demain, ce sera noir pour les départs. 2 millions de voyageurs sont attendus dans les gares et 80 000 passagers chaque jour à Roissy dans les avions. Les avions, justement, Air France KLM qui annonce avoir, comme au début de l'année, perdu 1,48 milliard d'euros au deuxième trimestre avec des avions cloués au sol en raison de la pandémie. Mais le groupe dit tout de même constater des premiers signes de la reprise. Des signes encourageants aussi pour le PIB français qui progresse de 0,9 points au deuxième trimestre. C'est un peu mieux qu'espéré. Enfin, au Japon, Vincent Fichot annonce l'arrêt de sa grève de la faim en prévision d'une opération chirurgicale. Depuis 21 jours, ce père de famille ne mangeait plus pour réclamer le droit de retrouver ses enfants enlevés par leur mère japonaise. Il vient de recevoir le soutien notamment de l'ambassadeur de France au Japon.
Hortense Crépin pour toute l'actualité du vendredi à 8h33.
10 mètres franquets sur RTL.
Et demain.
Et demain.
À notre rencontre avec une personnalité comme tous les matins de cet été pour conjuguer au passé, au présent et au futur la vie et la crise sanitaire. Eddy de Préto, Jean Viard, Christophe André, Philippe Etchebest se sont confiés ces derniers jours. Ce matin, face à Guillemette Franquet, une viticultrice, PDG du domaine Château Angélus.
Bonjour Stéphanie de Bois-Rivoal.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Écoutez, plutôt optimiste, même si les conditions météo sont très compliquées, particulièrement quand on est en conversion à l'agriculture biologique. Donc on doit apprécier ces conditions climatiques qui nous font un petit peu trembler, dont on est tributaire au quotidien.
Vous avez l'impression que votre rapport à la vigne a été changé après toute cette période ?
Oui, il a été renforcé. En fait, il y a vraiment un lien charnel entre la terre et notre famille. On a un ancrage très fort à nos vignes. Et le fait d'avoir passé le confinement à la propriété aux côtés de nos vignerons, les choses sont finalement exacerbées. On les ressent encore plus. Et ça fait un bien fou d'être au milieu des vignes, de l'être davantage que dans des salles de réunion, dans des bureaux ou dans des avions.
Vous essayez de convertir vos vignes au bio. Cette période, elle vous a aidé dans cette démarche, avoir justement plus de temps auprès de vos vignes.
Le fait d'avoir plus de temps, c'est évident que on est plus au contact de nos vignerons, donc il y a une cohésion qui s'est renforcée. Ça, c'était très fort, et notamment les différentes équipes, que ce soit nos restaurants, que ce soit l'administration, tout le monde est venu prêter main forte aux vignerons quand ils en avaient besoin. La difficulté, en revanche, dans la conversion à l'agriculture biologique, sont les conditions climatiques. Mais c'est notre métier. On est tributaire de la météo. On ne maîtrise rien. mais c'est, y a un côté extrêmement frustrant quand, quand on a des pluies importantes qui lessivent le cuivre et le soufre, et donc il faut faire des passages à répétition.
N'avait pas dans le monde d'hier et qu'on aura dans le monde de demain.
Alors, ce qui aura dans le monde de demain, à mon sens, c'est un excès de précaution, de normes, de restrictions à tous les niveaux. Pour moi, en ce qui me concerne au quotidien, aux conditions de travail, de voyage, de réception, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y avait une convivialité extraordinaire. Il est très important d'être au contact de ses consommateurs, de parcourir la planète, les marchés, et d'être au quotidien avec eux plutôt que par écran interposé, on commence à se lasser.
Si vous deviez choisir un mot pour qualifier le Covid, vous choisiriez quoi ?
Je dirais phobie, parce que je trouve qu'il a créé des inquiétudes, des distances. Beaucoup d'individus se sont comportés de façon totalement irrationnelle. Ça m'est encore arrivé il y a une semaine où, alors que je suis enceinte de 5 mois, on m'a refusé dans un ascenseur. Un couple m'a dit non, on est en période de Covid, vous rentrez pas. J'ai trouvé ça, je me suis dit, mais écoutez, si vous avez peur à ce point, restez chez vous. Enfin, la raison manque. Dans des situations, on peut se protéger sans pour autant tomber justement dans cette phobie.
Est-ce qu'il y a une musique ou un son qui ont été importants pour vous, qui vous auraient accompagné pendant cette période ?
Écoutez, comme j'étais à la propriété quasiment en permanence, on a les cloches et elles sonnent 3 fois par jour. Donc ça avait ce côté très rythmé d'entendre les cloches 3 fois par jour.
Merci beaucoup Stéphanie de Bois-Rivoal.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Et demain, Guillemette Franquet et ses entretiens, c'est tous les matins de cet été, vous le savez, sur RTL. Des cloches au piano de Calogero. Calogero, la superstar qui a ouvert son studio d'enregistrement à Steven Bellris. Et laissez-vous tenter la version soleil dans une poignée de secondes. Il est 8h37, à tout de suite.
Vous êtes bien sur RTL.